Chapitre 30. Lorsqu'il entre dans la chambre d'hôpital et qu'il les voit, Elena étendue sur le lit et Sébastien à son chevet, qui lui tient la main, Becker a le sentiment d'avoir atterri dans une autre dimension. Dans cette nouvelle réalité, les choses sont revenues dans l'ordre. La sublime aristocrate Elena Fitzgerald est mariée au beau et riche Sébastien Lennox. Elle coule des jours heureux dans l'opulence du manoir Fairburn et n'est plus confinée au minable logis du garde-chasse. Dans cette nouvelle réalité, James Becker ne s'est pas immiscé dans un monde qui n'est pas le sien. Il n'a pas arraché Elena à la vie à laquelle elle était destinée, et il n'a pas brisé le cœur de Sébastien au passage. Il est seul, malheureux, et il épie de l'extérieur, le nez collé à la vitre, comme il le mérite. Becker a froid, il a l'estomac sans dessus-dessous. Le sol s'est ouvert sous ses pieds, il chute dans le néant et c'est entièrement sa faute. C'est sa faute car il n'a pas été présent quand Elena avait besoin de lui. C'est sa faute car, même si cela n'a duré qu'une fraction de seconde, il a envisagé de choisir Vanessa plutôt qu'Elena. Et c'est sa faute car il a refusé d'écouter la petite voix dans sa tête qui n'arrêtait pas de lui répéter qu'une catastrophe était sur le point de se produire. Il en est là de ses réflexions quand Elena tourne la tête vers lui.
« Beck !»
s'exclame-t-elle, la voix brisée par l'émotion, et elle retire sa main de celle de Sébastien pour l'attendre vers lui. En un instant, il est à ses côtés. Il l'embrasse.
« Enfin, tu es là !»
souffle Elena.
« J'ai cru que tu n'arriverais jamais. »
Il la serre contre lui au moment où un sanglot enfle dans sa poitrine.
« Tu ne vas quand même pas te mettre à pleurer, espèce de gros bébé !»
le taquine gentiment Elena en lui caressant les cheveux.
« Je vais bien, on va bien tous les deux, ne t'inquiète pas. »
Quand il relâche enfin son étreinte, Becker se rend compte qu'ils sont seuls. Sébastien est parti. Tout va bien, donc. Elena est en bonne santé, le bébé aussi. C'était un saignement bénin. Un peu abondant, certes, mais pas inquiétant pour autant. En tout cas, les médecins n'ont rien trouvé d'anormal.
« Il faudrait savoir, ce n'est rien ou vous n'avez rien trouvé ?»
lance Becker au docteur, furieux.
« Ce n'est pas pareil. »«
Laisse-le tranquille, Beck, »
lui murmure Elena.
« Je vais bien. »
Et c'est vrai, malgré ses traits tirés, ses lèvres gercées et ses grands yeux scintillants de fatigue, elle semble en forme. Son teint est plus pâle que d'habitude, mais deux petites taches de couleur se sont frayées un chemin jusqu'à ses pommettes. Elle serre tellement fort la main de Becker que celui-ci ne peut réprimer une grimace de douleur. 5 jours se sont écoulés depuis que Becker a quitté Eris, 3 depuis qu'Elena est de retour à la maison. Becker a pris une semaine de congé. Et tous les deux vivent cloîtrés dans une espèce de confinement volontaire. Ils ne quittent le logis qu'à l'occasion de rares promenades. Ils lisent au coin du feu, regardent la télévision, font l'amour en prenant 1000 précautions. Ils mangent équilibré, évitent l'alcool. Becker n'a pas fumé une seule cigarette depuis 72 heures. Et il n'en peut plus. Ce matin, un technicien d'un laboratoire indépendant de Londres a ouvert la boîte en verre de Division 2. Et a détaché l'os du filament en or auquel il était suspendu. Becker n'était pas présent. Il a préféré rester à Fairburn avec sa femme, à faire les 100 pas dans le couloir étroit entre le salon et la cuisine, en attendant l'appel du spécialiste. Celui-ci lui a annoncé qu'à première vue, il s'agissait bien d'un os d'origine humaine, et qu'il allait en prélever un échantillon. Selon lui, l'analyse de ce fragment devrait permettre de dater l'os à quelques années près, mais aussi de déterminer le sexe et l'âge de la personne auquel il appartenait. Les résultats devraient être disponibles dans la semaine, sous 15 jours au maximum. En milieu d'après-midi, quand Becker a enfin raccroché le téléphone après s'être entretenu successivement avec le technicien, Sébastien et le conservateur de la Tate moderne, Elena, qui a passé la majeure partie de la journée sur le canapé à essayer de lire, est à bout.
« Pour l'amour de Dieu, Beck !» « Sors de la maison et va voir le feu de joie, tu me rends dingue !»
C'est le 5 novembre, et à l'occasion de la Guy Fawkes Night, une grande fête est organisée au manoir pour les familles des employés de Fairburn et pour les voisins.
« T'es sûr que ça va aller ?» demande Becker, et Elena grimace.
« Moi, oui, mais continue à me surveiller comme le lait sur le feu, et je te garantis que c'est toi qui ne passeras pas la nuit. Allez, fiche le camp !»
Becker obéit. Depuis la passerelle, on voit la foule amassée devant la façade ouest du manoir, là où on a dressé le bûcher. On entend aussi les rires et les cris des enfants qui jouent sur la pelouse. Becker se rend compte qu'il pourrait s'autoriser une cigarette. La fumée du feu de joie à venir masquera l'odeur. Il se penche au-dessus du garde-corps.
Malgré la pénombre, il constate que le ruisseau est entièrement gelé, et il prend une profonde inspiration qui fait frémir ses poumons d'impatience. La démangeaison dans sa poitrine lui fait l'effet d'un signe du destin. La tentation est trop forte. Becker fouille ses poches à la recherche de son paquet de feuilles à rouler, mais ses doigts se referment sur quelque chose d'autre. La lettre qu'il a récupérée dans la cuisine de Grace. Il en avait complètement oublié l'existence. Par chance, il reste juste assez de lumière pour la lire. Février 2003. Chère Grace, désolé de n'avoir pas répondu à ta dernière lettre, mais entre les problèmes juridiques et la fuite du toit, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour moi. Heureusement, je crois que les avocats ont enfin trouvé un accord avec Douglas. J'ai hâte d'être débarrassé de cette histoire qui me pèse et m'empêche de me concentrer. Je devrais me serrer encore plus la ceinture, mais ces temps-ci, je ne sors pas et je ne dépense rien, alors ça devrait aller. J'ai reçu un message d'Isobel. Elle reste très fâchée contre moi. En dépit de la lettre que je lui ai écrite, elle continue de s'accrocher à l'idée que je ne lui aurais envoyé aucun témoignage de ma sympathie. En ce moment, elle est en France. Apparemment, on aurait aperçu un homme correspondant à la description de Julian sur la Côte d'Azur. Je doute qu'elle soit aussi prompte à suivre une piste le jour où quelqu'un croira le reconnaître à Coventry ou en Côte d'Ivoire. Quoi qu'il en soit, c'est une perte de temps, bien sûr. Je réussis enfin à travailler. En cela, la solitude m'aide. J'ai toujours été plus créative une fois livrée à moi-même. Je suis l'emploi du temps qui me plaît sans avoir à m'inquiéter de qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre. Je ne peins plus beaucoup, mais j'ai commencé à créer une nouvelle série de sculptures que j'ai intitulée « Division ». J'y intègre des objets trouvés en plus de la céramique. C'est une nouvelle direction pour moi et elle me semble prometteuse. Je ne sais pas comment répondre à ta lettre. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne veux pas que tu reviennes sur Eris. Tu sais trop de choses et ça ne me plaît pas. Je crois que je serais mal à l'aise en ta compagnie. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Nous devons arrêter d'être enchaînés l'une à l'autre désormais. Bise, Vanessa. Une bourrasque soudaine menace d'arracher la feuille des mains de Becker. Les battements de son cœur s'accélèrent. Derrière lui, une clameur enfle, tandis que les premiers crépitements du feu montent dans la nuit sous les hurrahs aigus des enfants. Nous devons arrêter d'être enchaînés l'une à l'autre. Presque mot pour mot, l'expression que Vanessa a utilisée dans le message qu'elle a laissé à Julian. Dans ses carnets, elle évoque tout le temps sa liberté, une notion qui revient aussi beaucoup dans ses interviews. De toute évidence, il s'agit à ses yeux d'une inspiration beaucoup plus forte que l'amour ou même l'amitié. Jusqu'où Vanessa aurait-elle été prête à aller pour son indépendance? Et que sous-entend-elle quand elle écrit que Grace sait trop de choses? Que sait-elle au juste? Le sentiment d'effroi qu'il pensait avoir laissé à l'hôpital est de retour et l'enveloppe telle une cape. De l'autre côté du bûcher, un groupe d'enfants surexcités tourne autour de Sébastien, qui leur distribue des friandises. Le seigneur local qui prodigue ses largesses, songe Becker. Lorsqu'il l'aperçoit, Sébastien agite joyeusement la main, et le conservateur s'en veut aussitôt de sa mesquinerie.
« Te voilà !» s'exclame Sébastien. « Bon, comment vas-tu? Et comment va notre chère Léna ?»
Le sourire de Becker vacille un instant.
« Elle va bien, beaucoup mieux. Pour tout te dire, elle m'a mis à la porte. Apparemment, je la rends dingue.
Sur ce point, je dois pouvoir vous aider. J'ai une mission à te confier qui risque de te prendre un jour ou deux. Est-ce que tu voudrais bien retourner à Eris d'ici la semaine prochaine ?»«
Franchement, ce n'est pas le meilleur moment, » hésite Becker avec une grimace.
« Pourquoi tu veux que j'aille là-bas ?»
Sébastien s'apprête à répondre quand un vieil homme s'approche, un enfant à ses côtés. Graham Bryant, le garde-chasse, ou plutôt le porteur du chapeau, comme le surnomme désormais Becker en son fort intérieur. Bryant salue Sébastien, lui présente son petit-fils et demande des nouvelles d'Emmeline.
« Elle ne devrait pas tarder, »
lui assure Sébastien en ébouriffant les cheveux de l'enfant.
« Restez dans le coin, elle voudra vous dire bonsoir. »
Bryant et son petit-fils s'éloignent, et Sébastien se retourne vers Becker. Son sourire a disparu.
« Je suis très inquiet, » concède-t-il. « Si l'analyse d'ADN détermine que l'os appartient à Julian, sa sœur en sera la première informée et toute cette histoire va nous échapper. » Peut-être qu'elle ne se précipitera pas sur les micros des journalistes, mais...
« Vu ce que j'ai lu sur Isobel, » l'interrompt Becker, « C'est quand même très probable. Sébastien acquiesce.
Il y aurait un battage médiatique autour d'Eris, l'île, la maison, l'endroit où l'os a été retrouvé.
Et Grace risque de paniquer, conclut Becker qui a compris où Sébastien voulait en venir. Qui sait ce dont elle serait capable? Irait-elle jusqu'à détruire des documents qu'elle estime trop sensibles ou trop personnels? Sébastien passe un bras autour des épaules de Becker.
Je comprends que tu ne veuilles pas laisser Lena seule à la maison. À ta place, ça ne me plairait pas non plus. Mais elle va mieux, tu l'as dit toi-même, et je serai là pour veiller sur elle.
Becker laisse Sébastien auprès du feu de joie et se rend au manoir. Dans son bureau, il commence à rédiger un bref email à Grace, afin de lui expliquer pourquoi il est parti en coup de vent et de lui demander s'il pourra repasser dans les jours qui viennent afin de récupérer le reste des documents. Finalement, il se ravise. Il ferait mieux de lui téléphoner. Ce serait plus sympa. Il efface le message et éteint son ordinateur. Lorsqu'il quitte le bureau, il remarque un ray de lumière qui s'échappe par la porte entrouverte du grand hall. À l'exception des spots qui illuminent les œuvres, la galerie est plongée dans le noir. Becker entre, s'avance à pas lents, s'arrête devant Noir 1, l'obscurité ne nous dérange pas. Le premier tableau que Vanessa a fait de la mer. Le vert des algues et les éclaboussures de rouge foncé absorbent l'éclat des projecteurs, donnant l'impression d'un tourbillon sur la toile.
Ignoble, n'est-ce pas?
Becker sursaute. Emmeline est juste derrière lui, il ne l'a pas entendu arriver. Dans la pénombre, elle a l'air pâle et minuscule, presque translucide. Un spectre.
Si cela ne tenait qu'à moi,
ajoute la maîtresse des lieux en examinant le tableau,
je décrocherai cette horreur et je la jetterai sur le bûcher, là dehors. Ignoble, vraiment,
répète-t-elle. Sur ce, elle entame un lent tour de la galerie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour s'arrêter devant le mur nord, où sont exposées d'autres marines.
Vous savez, si elle lui a légué l'intégralité de ses œuvres, c'était uniquement dans l'idée de me faire du mal,
déclare-t-elle. Et Becker laisse échapper un ricanement. Lady Emmeline fait volte-face. Elle a troqué ses éternels talons contre des ballerines. C'est pour cela qu'elle ne fait aucun bruit quand elle marche et qu'elle lui a paru si petite. Peut-être qu'elle se ressent encore de sa chute de l'autre jour, quand elle a trébuché sur l'un de ses chiens. Becker aurait presque pitié d'elle, mais il croise son regard chargé de dédain et ne peut s'empêcher de frissonner.
C'est vraiment ce que vous croyez ?
Parvient-il à bredouiller. Vous croyez que pendant que Vanessa était en train de mourir, elle pensait à vous ? Il la rejoint et passe avec elle devant Monotonie, qui représente les sables d'Eris au clair de lune. Devant Naufrage, Renouveau, et Pour moi, c'est une louve. Enfin, Lady Emmeline s'arrête devant L'espoir et violence.
Celui-là, il me plaît, déclare-t-elle. Le travail du pinceau est différent, presque forcé. On perçoit la souffrance de Chapman. Et ce ciel, cette ligne couleur sang à l'horizon, elle avait conscience que la fin était proche. Ça se sent.
Avec un sourire mauvais, elle reprend.
Toutes ces foutaises que Douglas a racontées aux journalistes à la suite de cette histoire d'héritage, vous vous souvenez? La preuve de leur soi-disant intimité, leur lien jamais rompu. Qu'est-ce qu'il pouvait être naïf?
Emmeline se remet à marcher. Dehors, le joyeux brouhaha autour du bûcher se poursuit. À la lueur des flammes qui s'élèvent toujours plus haut dans la nuit, leurs deux ombres, la sienne et celle de Lady Emmeline, paraissent sauter d'un mur à l'autre. Perturbant. Ils ont presque fini leur tour de la galerie quand Emmeline s'arrête à nouveau, cette fois devant Noir 5, la forêt derrière l'arbre. Elle secoue la tête avec un « tut » désapprobateur. Parfois, il est nécessaire de reculer d'un pas, afin de comprendre ce qu'on a sous les yeux, intervient Becker. Si vous vous tenez juste là, par exemple, vous verrez que...
Croyez-vous vraiment que j'ai besoin d'une leçon d'appréciation artistique, monsieur Becker?
Le coupe Emmeline.
Non seulement je ne pense pas que vous ayez quoi que ce soit d'intéressant à m'apprendre, mais surtout je doute que vous soyez le mieux placé pour m'expliquer ce que j'ai sous les yeux.
Cette fois, quand elle repart, Becker ne la suit pas. Planté au centre du grand hall, il essaie de s'imaginer que cette petite silhouette voûtée qui s'éloigne d'un pas lent est une gentille vieille dame qui erre dans un musée à la recherche des natures mortes.
Au bout d'une éternité, Emmeline atteint la porte de la salle.
« Je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi, »
lance-t-elle alors à Becker. Les flammes du bûcher éclairent à présent son profil, donnant à son visage une apparence terrifiante de masque mortuaire. Déterminée à ne rien laisser paraître de son appréhension, Becker se hâte de la rejoindre et, le plus poliment possible, lui demande « De quoi s'agit-il, Lady Emmeline ?»«
Quand vous aurez réglé cette affaire sur l'île des Ris, avec l'exécutrice testamentaire, je veux que vous remettiez votre démission et que vous disparaissiez, vous et votre femme. »
« C'est hors de question, et vous le savez pertinemment, » rétorque Becker en secouant la tête. Avec un long soupir, Lady Emmeline lève les yeux au plafond et passe un index noueux sur ses lèvres exsangues.
« Monsieur Becker, ce serait pourtant dans notre intérêt à tous les deux. Sans vous, l'éminent spécialiste de Chapman, mon fils se lassera vite de tout cela. »
D'un geste vague, elle désigne les tableaux qui les entourent.
Il a simplement besoin d'un petit coup de pouce pour passer à autre chose. Sébastien a beaucoup de mal à tourner la page. Vous n'êtes pas d'accord ?
Pas du tout, réplique Becker, glacial. Et Emmeline esquisse un sourire qui ressemble à un rictus.
Vous me disiez il y a quelques instants qu'il faut parfois reculer d'un pas pour comprendre ce que nous avons sous les yeux. Eh bien, je suis sûr qu'avec un peu de recul, vous verriez que...
Écoutez, l'interrompt Becker. Et Lady Emmeline a l'air tellement estomaquée par son effronterie qu'il doit se retenir pour ne pas éclater de rire. « Je comprends pourquoi Vanessa Chapman n'est pas votre artiste préférée, mais je ne vais pas démissionner simplement parce que vous me le demandez. »«
Dans ce cas, faites-le parce que c'est dans votre intérêt. Cela ne vous dérange pas que mon fils s'empresse d'aller rejoindre votre épouse chaque fois que vous mettez un pied hors du domaine ? Dès que votre voiture a franchi le portail, il se précipite au logis du garde-chasse pour s'occuper d'elle. »
Elle part d'un rire grave et rocailleux.
« Ce n'est pas quelque chose qui vous interpelle, monsieur Becker. Pourtant, vous connaissez votre femme. Vous êtes bien placé pour savoir... »«
Effectivement, je connais ma femme, » la coupe à nouveau Becker. « En revanche, vous semblez oublier que Sébastien aussi. Votre fils est peut-être toujours amoureux d'Elena, mais il respecte la décision qu'elle a prise, parce qu'il la respecte, elle, et qu'il me respecte, moi, par ailleurs. » Je ne pense donc pas avoir à m'inquiéter sous prétexte qu'ils aiment passer du temps ensemble. Je vous rappelle qu'ils se sont rencontrés à l'adolescence et que leur amitié précède de longtemps leur histoire d'amour. Emmeline laisse échapper un nouveau rire méprisant.
« Vous êtes un grand naïf, » dit-elle. « Vous êtes exactement comme Douglas. Aveugle. »
Becker en a assez entendu. Il se dirige vers la porte. Lorsqu'il passe devant Noir 2, un frisson lui parcourt la colonne vertébrale. Dans la pénombre, le sourire de la silhouette au centre du tableau semble scintiller.
« Elle en est à combien ?»
lance Emmeline dans son dos.
« 8 mois, si je ne m'abuse. Ce qui nous donnerait une date de conception autour de... Attendez que je calcule. Fin février, début mars ? La fin de notre... quoi ? 3e confinement, c'est ça ? Soit le moment où vous êtes allé à Hambourg, vous renseigner sur les Hockney. » Tout le monde était tellement fébrile à cette période, vous vous souvenez? Après ces longues semaines d'enfermement, les gens avaient besoin de relâcher la pression.
Becker se retourne vers la vieille dame. L'espace de quelques instants, il a envie de la frapper. Il imagine déjà se recroqueviller de terreur lorsqu'il brandira le poing. Il prend une grande inspiration. « Je devrais éprouver de la pitié pour vous, » déclare-t-il. « C'est vrai, vous êtes vieille, aigrie, vous vous sentez seule, sûrement. » Peut-être même que votre mari vous manque. Je devrais éprouver de la pitié pour vous, et pourtant je ne ressens que du mépris. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Parce que je pense que vous êtes quelqu'un de foncièrement mauvais. Continuez à distiller votre poison si ça vous chante. Persistez avec vos insinuations perfides. Le fait est que je vous survivrai. Quand vous serez morte, je serai toujours là, à Fairburn, avec Elena et notre enfant. Alors qu'il s'éloigne, il jette un dernier coup d'œil à « L'espoir et violence » et il pense à sa mère, si frêle dans son lit d'hôpital, regardant son petit tableau accroché au mur. Sur le seuil, Becker ne peut pas s'en empêcher. Il se retourne vers Lady Emmeline. Elle n'a pas bougé. Elle est toujours plantée là, voûtée et pitoyable, les poings serrés le long du corps. « Ma mère a laissé derrière elle un fils qui l'aimait », conclut Becker d'une voix posée. « Vous pensez que ce sera votre cas ?» Sans un mot, elle fait volte-face,
et Becker croit voir ses mains se mettre à trembler.